Bonjour, je m'appelle Xavier Fournier. Dans ce podcast, Aventure Fiction, Aventure avec un S et Fiction au singulier, je vous parle de la culture des comics au sens large. Vous le savez sans doute, les Éternels, ou simplement Eternals en VO, le nouveau film des Marvel Studios, sort cette semaine. Puisque j'ai signé l'an dernier Kirby's Fair, livre dans lequel je parle fatalement beaucoup de Jack Kirby, mais aussi de la genèse des Éternels, j'attendais ce film réalisé par Chloé Zhao avec beaucoup de curiosité et d'impatience. Il m'a paru intéressant de consacrer un podcast entier aux interactions entre la version des comics et celle du film. Pour ce qui est réellement des Éternels des comics, j'en parle en détail dans un chapitre épais de Kirby's Fair, livre toujours disponible aux éditions Corrette. Il ne s'agit donc pas de vous refiler en version audio le chapitre traitant des Eternals, mais bien de vous parler des interconnexions possibles ou pas entre les Éternels des comics et ceux du cinéma. En m'efforçant de m'en tenir à des éléments qu'on voit déjà dans les bandes-annonces, je vais tenter de vous expliquer quelques aspects du film sans pour autant spoiler, ce qui fait que vous pouvez, je pense, écouter ce podcast avant ou après avoir vu le film. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je vous rappelle que pour exister, ce podcast a besoin de votre soutien, ou de vos soutiens sous différentes formes. Vous pouvez partager, liker, faire connaître l'existence d'Aventure Fiction, et puis pour certains d'entre vous qui le souhaitent, vous pouvez aussi participer financièrement à l'existence du podcast via la page Tipeee dont vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Sur octobre, le podcast était un peu beaucoup en repos forcé, pour cause de déplacements, de voisins qui faisaient des travaux bruyants, et même du chien de l'autre voisin faisant des siennes. Et essayer d'enregistrer un podcast quand vous avez un chien qui aboie comme un dingue, c'est un peu particulier. Tout ça avant de choper ce qui ressemble bien à une sinusite, et j'espère que ça s'écoutera pas trop dans le micro, ce qui fait que du coup les enregistrements n'étaient pas trop possibles pendant quelques semaines, mais nous revoilou, et donc on va essayer de rattraper un peu le retard. En attendant, voilà donc venu le moment de parler des Eternals. Les Eternals ont été créés en 1976 dans un comic book entièrement créé par Jack Kirby, c'est-à-dire scénarisé et dessiné, lors de sa troisième session chez Marvel. Alors pour remettre un petit peu les choses dans l'ordre, on peut un petit peu parler de la relation compliquée que Jack Kirby a eue avec l'éditeur Marvel. Dans une première session, cet auteur a été ni plus ni moins que le co-créateur de Captain America en 1941, et ça déjà, ça vous pose un CV. Et puis, après que Martin Goodman, le patron de Marvel à l'époque, n'ait pas forcément tenu les engagements envers les créateurs de Captain America, Jack Kirby et Joe Simon sont partis dans la maison d'en face, chez DC Comics, pendant quelques années. Le hasard, le destin et les hauts et bas de la carrière de Jack Kirby ont fait qu'à la fin des années 50, il est revenu chez Marvel, où il a fait cette fois équipe avec Stan Lee, et ils ont lancé ensemble essentiellement la plus grande partie de l'univers Marvel moderne, avec des créations comme les Avengers, les Fantastic Four, les X-Men et plein d'autres choses. Alors, il y a beaucoup de discussions d'ailleurs sur ça. Quand on dit Jack Kirby et Stan Lee ont créé ces séries, il y a beaucoup de discussions sur le fait qu'une bonne partie de ces séries était principalement appuyée sur l'imagination de Jack Kirby. Et puis, à nouveau en bisbille avec Martin Goodman et Stan Lee, Jack Kirby s'est éclipsé de chez Marvel à la fin des années 60, à la jonction des années 60 et 70, pour arriver chez DC Comics, où il a fait à nouveau quelques séries assez mémorables, comme les New Gods, une sorte de série de science-fiction avec des dieux cosmiques, et puis des choses un peu plus post-apocalyptiques, comme Kamandi. Mais le succès n'a pas été le même chez DC Comics, et au milieu des années 70, Kirby revient à nouveau chez Marvel, dans une nouvelle donne. Martin Goodman, qui était le propriétaire de Marvel, avait cédé la maison, il n'était plus là. Et puis Stan Lee, lui, ne s'occupait plus des affaires quotidiennes de la maison d'édition. Il s'occupait beaucoup plus de choses sur la côte ouest qui étaient liées à l'exploitation de licences, de dessins animés, de choses comme ça. Ce qui fait que Kirby revient avec l'assurance que finalement, il sera à peu près le seul maître à bord de ces séries. Il sera à la fois le dessinateur, mais aussi le scénariste reconnu de ses créations. Et tout ça explique donc ce que je vous disais tout à l'heure, que Eternal, c'est un bébé estampillé 100% Jack Kirby. Et donc, par la force des choses, Eternals est donc le premier film de Marvel Studios qui porte seulement la mention créée par Jack Kirby et non pas le nom de Stan Lee. Pour autant, le film de Chloé Zhao va sans doute rapidement s'aliéner à un certain nombre de gardiens du temple, puisqu'il prend des libertés avec des personnages créés par Kirby. Il n'y en a pratiquement pas un ou une qui soit raccord avec sa version des comics, qui ne respecte pas les choses à la lettre. Au niveau de respecter l'esprit, c'est autre chose, mais nous en reparlons un peu plus loin. Dans les comics, Jack Kirby était fasciné par la théorie dite des anciens astronautes depuis les années 50, y compris dans quelques histoires courtes publiées à l'époque. On retrouve assez vite l'idée de géants extraterrestres venus coloniser la Terre dans des temps anciens et dont diverses cultures dites primitives auraient paradoxalement gardé un meilleur souvenir que les occidentaux. Kirby est biberonné avec quelques œuvres de science-fiction et quelques témoignages d'ouvrages pseudo-occultes de l'époque. Je pense en particulier à l'affaire Shaver, soit les écrits hallucinés d'un certain Richard S. Shaver, qui avait commencé par raconter qu'il captait les messages d'autres civilisations via son poste à souder à l'usine, et puis avait inventé toute une mythologie personnelle dans laquelle des peuples extraterrestres étaient venus sur Terre dans un passé lointain et créé d'autres races, à savoir d'une part une race troglodyte que les primitifs avaient pris pour des démons, et puis des sortes de demi-dieux évoluant plutôt dans le ciel, supposés avoir inspiré les différents panthéons mythologiques, ou la figure des anges dans la culture collective. Shaver prétendait que ce qu'il racontait était vrai, qu'il avait même vécu auprès de certains de ses êtres. Et au début des années 70, ces thèses avaient été reprises par un certain Eric Von Däniken, qui a réellement propagé ce qui est convenu d'appeler la théorie des anciens astronautes, autrement dit, toute statue massive ou bas-relief antique montrant un dieu avec un casque est automatiquement considérée comme un astronaute extraterrestre ayant visité la Terre dans des temps anciens. Si vous avez déjà aperçu l'émission Alien Theory à la télévision, vous voyez le truc. S'inspirant aussi de romans de science-fiction écrits par Arthur C. Clarke ou encore Otto Binder, Jack Kirby invente donc dès les premières pages d'Eternals une sorte de mythologie cosmique. On nous explique que les Célestes, des êtres titanesques et mystérieux, ont débarqué sur Terre il y a très très longtemps, expérimenté sur des singes primitifs et créé à partir d'eux trois races distinctes, à savoir les surpuissants Eternals, les monstrueux déviants et les humains. Les Eternals construisent des cités en haut des plus grandes montagnes et au fil du temps sont confondus par les humains avec des dieux. Tandis que les déviants occupent principalement le continent lémurien, puis après la destruction de celui-ci, habitent dans des cités souterraines ou englouties. Et à terme, ils sont donc eux confondus avec des démons. Les Célestes, eux, reviennent sur Terre tous les X milliers d'années pour examiner la planète et la juger, décidant si elle doit être épargnée ou détruite. Au fil des années, cette histoire a été amendée et modifiée chez Marvel, en particulier parce qu'elle contredisait certains événements établis dans d'autres comics. La série Eternals, lancée par Kirby, s'intéressait surtout à des Eternals qui faisaient référence au mythe grec. On croisait donc plutôt les héros Icaris, Cersei, Makari ou Téna. On comptait aussi Zuras, qui était le patriarche de la race depuis leur cité Olympia. Ou encore Ajak, qui en quelque sorte était le spécialiste des contacts avec les Célestes et qui était chargé de préparer chacune de leurs visites sur Terre. Ce qui est intéressant de retenir, c'est que d'un côté, Jack Kirby s'émerveille de l'existence de ces personnages, d'un côté vraiment spectaculaire, cosmique, mais dans le même temps, il est opposé à toute forme de déterminisme. C'est-à-dire qu'après quelques numéros, l'auteur lui-même a commencé à contredire cette idée d'une bonne race supérieure opposée à une race démoniaque, avec les humains coincés quelque part au milieu. On découvre donc à terme, d'un côté qu'il y a certains éternels corrompus, comme Druig, qui, dans la BD, est une sorte de Magneto ou Loki des Eternals. Et puis, lors d'un voyage chez les déviants, Téna ramène deux membres de cette race qui choisissent, eux, le camp du bien. Il y a Carcass et Reject. Carcass, bien qu'extérieurement monstrueux, est un être bienfaisant. Reject est un déviant qui a l'apparence totalement humaine, normale, ordinaire, mais en fait est une véritable machine à tuer, un assassin en prise à des crises de fureur constantes. Comme d'autres séries de Kirby auparavant, je pense en particulier aux New Gods chez DC Comics, les Eternals version 1976 sont une parabole qui traite d'évolution et de déterminisme. Sommes-nous définis par notre nature ou par nos actes? Pouvons-nous évoluer au-delà de ce que nous sommes à la naissance? Alors pour ce qui est de la version de l'univers cinématique Marvel, dès la bande-annonce, vous aurez compris que les choses sont présentées d'une manière différente, puisque le côté créationniste a été retiré de l'histoire. Les Éternels se présentent d'abord comme une dizaine d'extraterrestres débarquant de la planète Olympia, et ils arrivent 7000 ans dans le passé, quand les humains, bien que pas encore civilisés, sont déjà apparus. Dans cette version, les Célestes ne semblent pas être les créateurs des humains, tandis que les Éternels et les Déviants ne sont pas présentés comme des races-sœurs de l'humanité. On peut même disputer le fait que les Éternels et les Déviants soient présentés vraiment comme des races à part entière, tant ils sont, dans les deux cas, des groupes avec des effectifs limités sur Terre. Alors pourquoi ces premiers changements? Il y a différentes explications possibles. D'abord, tout simplement, on peut imaginer, mais l'imaginer c'est pas forcément ce qui s'est passé, on peut imaginer que Marvel Studios a voulu ménager tout simplement un public peut-être un peu plus conservateur en termes de religion. C'est une explication possible, c'est pas pour ça que c'est vrai. L'autre explication possible, potentiellement possible, elle est assez compréhensible. Tout ce qui touchait un petit peu à la théorie des anciens astronautes en 1976 et qui était un peu vécu comme une forme de mélange de religion, d'archéologie, de science-fiction, de choses comme ça, et qui était assez qui tenait aussi un petit peu à des croyances dans le progrès. Et eh bien, 45 ans plus tard, ça ramène aussi à beaucoup de sous-groupes de gens qui vont vous raconter que les Illuminati sont venus, que les reptiliens sont passés par là, et voilà. Et donc, on peut peut-être imaginer que Marvel Studios n'a pas voulu se retrouver associé avec des groupuscules qui, eux, croient vraiment dur comme fer que certaines choses se sont passées dans le passé de l'humanité. Et donc, pour revenir au film, on pourrait d'office crier à la trahison dans la mesure où les Éternels sont passés du rang de race cousine des humains à celui de Highlander débarqué de l'espace. Et c'est vrai que c'est pas du tout la même chose au premier abord, mais il faut prendre en compte certains autres éléments. D'abord, ce n'est pas la première fois que les studios Marvel ont un peu la main lourde, ou plutôt, disons, légère, avec les origines de certains héros ou super-vilains. Si vous prenez un spectateur qui ne connaît que la version des films et que vous lui montrez la première apparition et origine de Star-Lord dans les comics des années 70, vous avez toutes les chances de le faire bugger tant les choses sont différentes. Même chose pour les origines de Captain Marvel, Carol Danvers, selon que vous les découvrirez dans les comics ou à l'écran. Elles sont méconnaissables. Pourtant, il faut bien distinguer les choses. Si les changements aux origines de Star-Lord, avec son histoire d'enlèvement d'enfants par un OVNI, étaient arbitraires et renvoyés à certains films des années 70 ou 80, dans Captain Marvel, beaucoup de choses changées étaient en fait surtout remixées, empruntant aux différentes incarnations de Captain Marvel. Par exemple, le fait que Carol se prenne pour une Kree vient des premiers épisodes de Miss Marvel, tandis que la scène où les Skrulls passent l'héroïne dans une sorte de sonde mentale vient des tout premiers épisodes de Captain Marvel mâle. Chez les Éternels de Chloé Zhao, c'est un peu pareil. Beaucoup de choses ont été réorganisées, mais font finalement allusion à certaines influences précises de Jack Kirby. Et cela donne parfois des rapprochements surprenants. Je vous le disais tout à l'heure, Jack Kirby s'est inspiré d'auteurs comme Arthur C. Clarke, Richard Shaver ou Otto Binder. Mais il n'est pas le seul créateur de comics fan de SF à avoir suivi cette route, ou ce mélange. Et je vous renvoie à Strange Adventure 19, paru en 1952 chez DC Comics. Dans une aventure du super-héros Captain Comet, on croise les 12 Eternals, 12 êtres surpuissants qui ont été confondus depuis l'Antiquité avec des dieux gréco-romains et qui voyagent dans leur vaisseau spatial en se mettant en hibernation. Cet épisode est écrit par le scénariste John Broom, qui refait un peu le même coup 8 ans plus tard dans un autre comic book, Flash 113, paru en 1960, où le héros super rapide, bien connu, fait la connaissance des habitants de la planète Olympus, dont tout le folklore renvoie au panthéon gréco-romain. On découvre qu'Olympus a envoyé des colonisateurs sur la Terre en des temps anciens, et que ces personnages, bien entendu, ont été confondus avec des dieux comme Mercure. Toujours en 1960 et toujours chez DC Comics, un collègue de John Broom, Gardner Fox, lui aussi grand amateur de science-fiction, écrit dans Mystery in Space 58, une aventure d'Adam Strange, où le héros rencontre trois extraterrestres surpuissants qui sont Hercule, Jupiter et Apollon, et qui sont originaires de la planète Olympia. Et l'implication, bien sûr, c'est là aussi que ces immortels ont dû visiter la Terre dans un passé lointain. Alors, je ne sais pas si en déconstruisant les influences de Jack Kirby, les scénaristes du film sont fortuitement retombés sur des choses voisines, ou s'ils ont fait un vrai travail de recherche de dingue. Je pense plutôt pour la première solution. En tout cas, dans les deux options possibles, cela semble valider que les auteurs ont saisi la fibre kirbyesque, quand bien même ils l'ont exprimée de façon parfois différente. Ils ont repris les mêmes influences, et en prenant les mêmes influences, c'est pour ça qu'ils sont retombés, là aussi sur des choses qui se rapprochent beaucoup de ce qu'a fait DC Comics avec ses propres Eternals. De fait, les 10 éternels du film devaient être 12 à un moment. J'ai lu ça dans une interview de Kleuzaoud. Il devait y avoir 12 héros dans ce film et ils ont un peu écrémé la chose. De fait, les 10 éternels du film débarquent d'un vaisseau spatial et frappent l'imagination des humains primitifs en racontant venir d'une planète Olympia. Ils ne font que resservir pratiquement mot pour mot des éléments de langage déjà croisés dans les épisodes de John Broom ou Garner Fox chez DC Comics. Comment plus notre compréhension des Eternals et ce qu'ils sont va évoluer avec le film, l'idée d'arriver avec une première version qui lorgne volontairement ou pas vers les Eternals de DC tiendrait à la fois de la pirouette et du trompe-l'œil. Et dans ce cas, ce serait particulièrement bien vu. Après, il faut savoir de quoi on parle et savoir aussi que les Eternals de Marvel et ceux de Kirby donc ont été très vite adaptés, malaxés par d'autres scénaristes. Pourquoi ? Parce que les Eternals de Kirby n'étaient pas vraiment fonctionnels dans l'univers Marvel. Ils contredisaient trop de choses. Le fait d'expliquer que les dieux grecs, finalement, c'était une autre race et pas vraiment des dieux grecs, ça contredisait pas mal de choses établies dans des séries telles que Thor ou les Avengers. Et je pense en particulier à l'existence du dieu Hercule, qui était membre des Avengers, et d'un seul coup, en expliquant ça dans Eternals, on vient sautiller un petit peu sur une chose qui est admise dans la continuité. Vous pouvez reprendre les courriers des lecteurs de l'époque, c'était des choses qui étaient assez diversement appréciées par les lecteurs, et on voyait plutôt Kirby comme un iconoclaste qui ne respectait plus la continuité. Alors il y a beaucoup de gens qui se sont un peu engouffrés dans la brèche pour imaginer des conspirations, il y aurait eu des lecteurs inventés par Marvel pour contredire Kirby, et là on est un petit peu dans la théorie de la conspiration, parce que Marvel avait sans doute autre chose à foutre que publier des séries de Kirby qu'il n'aurait pas vraiment aimé, et puis, dans le courrier des lecteurs, organiser des campagnes de calomnie pour couler Kirby. C'est un truc qui ne tient pas du tout debout, même si on peut comprendre sans doute que certains scénaristes fans de continuité n'étaient pas forcément dans la même boucle que Kirby et pas forcément très contents de voir arriver ces choses qui contredisaient l'existence des dieux grecs ou des choses comme ça. Pratiquement tous les projets majeurs qui ont utilisé les Eternals depuis, toutes les mini-séries ou les séries, tous les one-shots, ont introduit à chaque fois une petite variation pour expliquer des choses qui ne collaient pas dans la continuité. Et on a graduellement fait un petit peu glisser les choses, et même dans les comics, vous pouvez voir beaucoup de choses qui ne sont plus déjà les Eternals de Kirby. Je prends par exemple une super série qui s'appelle Earth-X, par Jim Krueger, Alex Ross et John Paul Leon, qui sont d'ailleurs remerciés au générique de ce film. Et c'est cette mini-série, cette maxi-série futuriste explique un petit peu plein de choses sur la manière qu'ont finalement les Célestes de se mélanger avec la continuité Marvel et de leur trouver une place bien réelle dans l'histoire de la Terre, bien fonctionnelle avec l'existence des surhommes et pourquoi finalement les Célestes s'intéressent à cette Terre. Tout ça, c'était pas forcément du tout la définition qu'en avait Kirby, lui était resté vers quelque chose qui se rapproche beaucoup plus d'un roman de Arthur C. Clarke qui s'appelle Les Enfants d'Icare. D'ailleurs, Les Enfants d'Icare, Icaris, vous aurez compris d'où vient le nom. On retrouve ces déformations, ces innovations à chaque nouveau projet. Il y a une super série par Neil Gaiman et John Romita Jr. où on nous explique finalement que ce qu'on pensait savoir sur les Eternals depuis le début, c'est un peu faux, et qu'il y a un personnage qui s'appelle Sprite, et qu'on va retrouver dans le film, mais avec un rôle très différent, et que ce personnage qui s'appelle Sprite a manipulé les souvenirs et l'histoire des Eternals pour leur donner une autre existence que ce qu'ils auraient dû avoir. Et dans cette série, on recorrige et on relance. C'est un petit peu, là aussi, quelque chose qu'on retrouve dans la toute récente série Eternals de Kieron Gillen, qui a été lancée il y a quelques mois par Marvel. Mais globalement, on comprend bien qu'à chaque fois, il y a une espèce de valeur déformée, valeur ajoutée, suivant vous aimiez ou pas, et que donc on arrive vers quelque chose de très différent. C'est forcément une situation à part, parce que d'une part, on a donc cette continuité qui évolue, qui est révisionnée à chaque utilisation, pratiquement, ce qui n'est pas le cas de l'origine du Punisher, de Frank Castle. Vous savez que c'est par rapport à sa famille, au meurtre de sa famille, qu'il décide d'aller faire une guerre contre le crime, contre la pègre, et ça bouge pas. Vous savez à peu près pourquoi Peter Parker est Spider-Man. Et même s'il y a des choses qui évoluent un petit peu dans la version des choses, et y compris au cinéma, Tante May a rajeuni pratiquement à chaque nouvelle version du personnage dans les films de ces 20 dernières années. Mais en gros, il y a des constantes. Et ces constantes font que Tante May, d'un film à l'autre, ne devient pas une espèce de serial killer qui va tenter de s'en prendre à son neveu. Dans Eternals, fondamentalement, il y a deux choses à prendre en compte. D'abord, le concept est beaucoup moins arrêté, finalement, beaucoup plus malléable que l'existence d'un Peter Parker et d'une Tante May. C'est-à-dire que les choses sont pas toujours fixes. Je parle en particulier de certains personnages tels que Ajak, qui meurt dans une mini-série des années 80, puis après c'est oublié, qui revient dans une autre série, et tout ça donne un petit peu plus de largeur à des gens qui veulent adapter le cursus. Et puis vous avez aussi carrément des personnages qui sont totalement inconnus du grand public, et il est beaucoup plus facile dans ces cas-là de prendre des libertés. Et je vous parlais tout à l'heure des précédents de Star-Lord ou de Captain Marvel. Du coup, ces libertés, elles sont assez visibles dès le début, dans le destin des personnages. Et puis, on comprend que Chloé Zhao, mais aussi ses scénaristes, donc qui sont Patrick Berlingue et les cousins Kaz et Ryan Fierpeau, se sont employés à essayer de comprimer des choses. La problématique du film Eternals, c'est qu'il y a beaucoup de personnages à introduire d'un coup. Beaucoup de personnages, ça peut sembler être à la fois beaucoup et pas beaucoup, 10 personnages, 10 héros d'un coup. Mais il faut comprendre que dans l'univers cinématique Marvel, finalement, c'est une première. On a eu jusqu'ici deux introductions massives de supergroupes. Le premier, bien sûr, c'était les Avengers. Et vous aurez compris que la constitution des Avengers s'est faite avec des piliers de films individuels qui progressivement ont formé le groupe, ont convergé vers ce film de groupe. Et puis, vous avez un contre-exemple qui est les Gardiens de la Galaxie, qui sont apparus d'un seul coup dans un seul film, mais les Gardiens de la Galaxie ne sont que 5, et sur les membres du groupe, il y en a un certain nombre qui n'ont pas d'histoire personnelle, qui n'ont pas besoin d'histoires longues et compliquées pour se justifier. Je prends ne serait-ce que l'exemple de Groot, qui est un extraterrestre végétal, et on nous a rien raconté de ses antécédents, de sa famille, de ce qu'il faisait avant. Il s'auto-suffit. Avec les Eternals, on a quand même quelque chose d'assez différent, puisqu'il s'agit de personnages qui, par la force des choses, existent depuis des milliers d'années, mais qui ont un passé commun. Et donc, des caractéristiques communes, chacun a un pouvoir différent, chacun a un relationnel différent, et il a donc fallu un petit peu chercher à comprimer plein d'éléments. Comprimer plein d'éléments, ça veut dire faire rentrer dans 10 personnages des éléments d'histoire qui finalement rentraient dans pratiquement une race entière. Ou en tout cas, plus d'une dizaine de personnages. Cette compression, elle devient d'autant plus apparente dès lors qu'on regarde les personnages de manière individuelle et non plus comme un groupe qui s'appelle les Éternels. Par exemple, le personnage d'Ajak, joué dans le film par Salma Hayek. Eh bien, c'est jamais que la compression de différents rôles. Vous avez à la fois le Ajax des comics, qui dans les comics d'ailleurs est un homme. Ajax dans les comics, c'est le spécialiste du contact avec les célestes. C'est un personnage qui a des espèces de lignes directes avec les célestes. Et puis, dans le film, Salma Hayek, elle joue un personnage qui non seulement a cette ligne directe, mais qui est aussi, de facto, la matriarche des Éternels. Et ça, ce rôle dans les comics, c'était plutôt celui du patriarche Zuras. Et donc, on a compris que Ajak dans le film, c'est la compression du Ajak des comics, du Zuras des comics, et puis le tout introduit cette fois-ci dans un personnage féminin. On va retrouver ça tout au long du casting de nos Éternels. Poursuivons dans les exemples. Téna, qui est jouée dans le film par Angelina Jolie, dans les comics, c'est la fille de Zuras. Et donc, vous aurez compris, Zuras égale Zeus dans les comics et Téna égale Athéna. C'est une sorte de femme parfaite blonde et très clairement dans le film extérieurement, c'est ça, mais c'est aussi un personnage qui, dans le film, est pris d'une espèce de rage assez courante. Et en fait, quand vous vous reportez aux comics, et ben vous comprendrez que Téna, qui est beaucoup plus calme en général dans la BD, a été comprimée en reprenant à la fois des éléments majoritaire de Téna, mais en prenant aussi quelque chose qui est l'instinct meurtrier de Rejek. Rejek qui est complètement absent du film, mais qui, de cette manière-là, joue quand même un rôle. Et pour la petite histoire, les crises de folie meurtrière, elles ont aussi une autre origine, puisque c'est un élément que Bob Arras avait utilisé dans ses épisodes des Avengers qui impliquaient Cersei et le Chevalier Noir. Et donc, on les retrouvait aussi, donc appliqués non pas à Téna, mais à Cersei. Donc on est toujours dans ce remix constant d'éléments de comics, et on est toujours dans cette situation que moi je compare avec ce qui a été fait sur le film Captain Marvel, où il y avait beaucoup de choses qui venaient finalement du super au mal Captain Marvel, qui avaient quand même été sauvées dans cette nouvelle version des choses. Dans les choses qui changent dans le film Eternals, il y a aussi le fait que les déviants sont des sous-personnages, c'est-à-dire qu'ils ont très peu d'autonomie, très peu d'importance, finalement très peu de charisme. On comprendra au fil du film pourquoi, et on est un petit peu plus dans des aliens version Wish que dans des personnages autonomes. On peut les rapprocher d'auteurs qui n'ont pas été remerciés dans les crédits du film, parce que finalement, ces déviants un petit peu en xénomorphes, ils font pas mal penser à une race qui est mentionnée dans les épisodes des Avengers de Jason Aaron et Anne McGuinness, où on découvre qu'il y a une race qui fait la guerre aux Célestes, qui les dévore quelque part, et qui s'appelle la Horde. Et fondamentalement, dans le film, les déviants ressemblent beaucoup plus à la Horde qu'aux déviants de Jack Kirby. Ça, assurément, c'est pas l'élément le plus kirbyesque du film. Enfin, on a les Célestes. Et les Célestes, extérieurement, c'est vraiment ce qui ressemble plus au design de Jack Kirby, sans y être entièrement fidèle, c'est vrai, mais il y a vraiment ce côté imposant, ce côté vraiment massif de créatures cosmiques, voilà quoi. On est vraiment dans l'ordre du spectaculaire tel que Kirby visait à l'appliquer. Pour autant, les Célestes, ils sont beaucoup moins mystérieux, dans le sens où Kirby les montrer comme des personnages muets, insondables, qui restaient vraiment très mystérieux sur leur but, leurs objectifs et même leurs méthodes, sur leur comportement même. Et là, on a des scènes qui reviennent plusieurs fois dans le film, en particulier quand Ajak s'adresse à Arishem. Arishem, c'est le leader des Célestes, et pour le coup, c'est encore un personnage à incorporer dans toute cette mythologie. Et Arishem, au lieu d'être un personnage muet, insondable, c'est un personnage qui parle, qui communique vraiment avec Ajak. Et du coup, le décorum de ces scènes, où on a un tout petit éternel face à un personnage qui apparaît dans l'espace de manière massive, moi, ça m'a beaucoup fait penser, et c'est assurément accidentel, ça n'a rien à voir, je pense, il visait pas du tout ça, mais ça m'a beaucoup fait penser à la scène dans Ulysse 31, à chaque fois que vous avez les dieux qui apparaissent dans l'espace, il y a cette musique qui s'appelait la malédiction des dieux, et vous avez un espèce de Zeus massif, qui apparaît avec beaucoup d'emphase et qui commence à déclamer des choses à Ulysse 31. Et ben là, c'est pareil, si ce n'est qu'on n'a pas un dieu grec pour le coup, on est une sorte d'armure de l'espace qui se matérialise devant Ajak avec la même emphase et le même poids et qui commence à lui déclamer des vérités. La compression des personnages, elle fait aussi qu'au final, on a des protagonistes qui deviennent très différents de ce qu'ils sont dans les comics. Simplement, ils sont tellement différents que leur destin va être un petit peu parfois échangé dans la bande. On le voit d'autant plus que quand Chloé Zhao parle de Eternals qui ont finalement sauté de la version finale, faut savoir qu'il y avait un personnage qui s'appelle Domo. Domo dans les comics, c'est le bras droit de Zuras. Bon ben, dans la version finale, Domo, ça devient le nom du vaisseau des Eternals. Donc, il y a une espèce de sauvegarde du nom, mais on voit bien que la fonction n'est plus du tout la même. Et puis, on comprend que, quelque part dans le film, et on voit d'ailleurs dans la bande-annonce, il y a Gilgamesh, qui est un peu le plus costaud des Eternals, qui est montré comme un peu le cuistot de la bande. Et on comprend bien que si l'éternel Domo, je parle pas du vaisseau, mais je parle bien de l'éternel, n'avait pas été évincé du script final, et ben ce personnage qui fait la nourriture, la tambouille un peu pour une partie des héros, tel qu'on le voit dans la bande-annonce, et ben ça n'aurait pas été Gilgamesh, mais ça aurait été Domo. Dans ce jeu-là, finalement, un personnage comme Druig, qui dans les comics, je vous l'ai dit tout à l'heure, était quand même un bel enfoiré, sans être forcément le plus sociable de la bande, ça devient un personnage nettement plus sympathique, et finalement beaucoup plus proche de ce que peut être le sprite dans les comics. Il y a aussi une autre grille de lecture dont il faut parler, c'est que forcément, entre ces espèces de créatures gueulantes qui arrivent de l'espace, qui sont les déviants, et puis toute une partie des Eternals, on fait forcément une sorte de rapprochement, là aussi peut-être accidentel, peut-être formel, peut-être voulu, avec des films et des héros de DC Comics. C'est bien simple, la ressemblance entre Icarus et Superman, elle est non seulement voulue, recherchée, mais elle est assumée. C'est-à-dire qu'il y a carrément un moment où vous avez des personnages, et je crois que vous le voyez dès la bande-annonce là aussi, qui font la comparaison entre Icarus et Superman. Et Icarus de répondre que lui ne porte pas de cape. Vous aurez même d'ailleurs dans ce film d'autres allusions dans les dialogues à un autre personnage connu de DC Comics, c'est-à-dire si j'ose des choses. Quand on reprend les Eternals, vous avez donc un pseudo-Superman qui est Icarus. Faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre que Tena, avec son côté guerrière, machine à tuer, c'est un peu une version blonde de Wonder Woman. Et puis bien entendu, on a Macari qui est lointainement inspiré du dieu Mercure, qui court super vite, qui est habillé en rouge, même si c'est pas toujours très visible suivant l'éclairage du film, mais et qui est un peu le flash de service. Donc on a une sorte de triumvirat qui déjà nous fait un peu penser un petit peu à la Justice League. Et bien sûr, il convient de rajouter à tout ça la touche de Chloé Zhao. Alors, on va rentrer un petit peu plus sur ce qu'on peut évoquer du style du film, et assurément, c'est un style très différent de beaucoup de choses qu'on a pu voir chez Marvel jusqu'ici. Alors, j'ai lu des choses assez polarisées avant d'aller voir le film. Beaucoup de gens, d'un côté, disaient que c'était la meilleure chose sur Terre. Beaucoup d'autres personnes, eux, disaient « Ah bah ça reste un film de super-héros, c'est la touche Marvel, c'est même parfois le pire Marvel qui existe. » Moi, je suis moins catégorique que ça, et quand je dis que je suis moins catégorique que ça, il s'agit pas de me placer dans un juste milieu idéal en disant « Bah non, c'est pas le pire, c'est pas le meilleur. » En fait, moi, j'ai une opinion différente, qui est de dire que ce film-là, fondamentalement, il est très intéressant, il est même majoritairement intéressant, et j'ai envie de vous dire qu'au 2/3, il est très intéressant. Mais 2/3, ça veut dire que, fatalement, il reste 1/3 qui me capte moins. Les 2 premiers tiers, c'est tout le travail d'exposition, alors qui peut être considéré parfois même comme un peu long, que fait Chloé Zhao, c'est-à-dire l'explication de comment les Eternals ont joué un rôle dans l'évolution de l'humanité, quelle a été leur place dans l'histoire, et puis la révélation progressive des Eternals à quelques humains qui sont contemporains. Le ton, il est vraiment très différent. Et honnêtement, quelqu'un qui, dans ce passage-là, me dit « Ah ben, c'est jamais qu'un Marvel », je pense qu'il a pris quelque chose. Ne serait-ce qu'une scène où Cersei révèle son identité et sa fonction à un humain, et cette scène-là, d'ailleurs, elle est là aussi, je crois, dans une des bandes-annonces, c'est fait pratiquement en contre-jour à la sortie d'une laverie automatique, dans un éclairage très particulier, et on est dans quelque chose de vraiment très différent d'un Black Panther, ou même d'un Gardien de la Galaxie, ou d'un Avengers. Ce qui est marrant d'ailleurs, parce que dans tous les scénaristes qui ont été impliqués dans ce film, et en comptant Chloé Zhao elle-même, il y a 4 personnes qui sont créditées pour l'écriture du film, il y a quand même un des scénaristes qui est celui de Ant-Man and the Wasp. Donc fondamentalement, toute cette partie-là, elle est assez différente de ce qu'on a connu, et ça se comprend d'autant plus que les personnages ont une forme de gravitas. C'est-à-dire que même s'il y a quelques formes d'humour, même s'il y a quelques vannes, ce sont quand même des personnages qui ont vécu des milliers d'années dans l'ombre de l'humanité, qui ont vu des tragédies, et qui ont une sorte de passif un petit peu, qui fait qu'on n'est quand même pas dans la frange des connades. L'autre chose qui m'a intéressé dans toute cette partie-là, c'est finalement une des conséquences de ce changement des origines des Eternals. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on soit dans une fable qui nous parle d'évolution et de déterminisme, comme on pouvait l'être dans les comics de 1976, on a là un changement majeur, puisqu'au lieu d'être des cousins des humains, les Eternals deviennent des explorateurs venus de l'espace, des colons. Et en fin de compte, quand on regarde le choix d'une bonne partie des flashbacks qui traitent des Eternals dans l'histoire humaine, eh ben, il s'agit de nous parler non plus d'évolution, mais de civilisation. On voit un peu Babylone, et on voit un petit peu une période qui n'est pas choisie au hasard, puisqu'il s'agit de montrer la conquête de l'Amérique. Et puis on a un passage qui n'est pas choisi au hasard, que je ne vais pas vous détailler, puisque vous n'avez peut-être pas vu le film. Ce qui est intéressant dans la manière de montrer l'histoire de l'humanité, c'est que Chloé Zhao et les auteurs font l'impasse pratiquement totale, je crois, totale sans doute, sur les États-Unis. On nous parle à un moment de l'Amérique, mais il y a un moment où les États-Unis n'existent pas en tant que tels. Et tout ce film-là, il s'inscrit dans une tendance qui est celle de la phase actuelle des films Marvel Studios, là pour le coup on peut parler de nombreuses ressemblances, qui est de dire, on parle du reste du monde, et le sort, le destin de la planète ne se joue pas à New York où il faudrait refermer un portail. On a donc eu la Russie avec Black Widow. On a eu, même s'il y avait quelques scènes aux États-Unis, un film qui portait le curseur sur la Chine avec Shang-Chi. Et puis là, on arrive à un film qui nous montre l'histoire de l'humanité en nous montrant Babylone, en nous montrant des civilisations précolombiennes et puis d'autres choses encore. On nous montre surtout à un moment la Seconde Guerre mondiale, mais dans un rôle très différent de ce qui est vu d'habitude. Il s'agit de nous montrer aussi les choses vues de l'autre côté. Et le curseur qu'on prend pour nous parler de la Seconde Guerre mondiale, il est loin d'être léger puisqu'il nous parle d'un impérialisme qui est plutôt l'impérialisme américain. Et en fin de compte, je crois qu'on peut dire que là où le comic book parlait d'évolution et de déterminisme, le film parle de colonisation et de déterminisme. C'est-à-dire que les personnages vont essayer de se déterminer au fil du film et au fil de leur histoire par rapport à leur rôle et est-ce qu'ils doivent se mêler finalement à la population qu'ils sont venus coloniser, est-ce qu'ils doivent s'y intéresser, est-ce qu'ils doivent les chérir, est-ce qu'ils doivent les protéger, et on a cette question qui est posée dans la bande-annonce aussi. Puis vous vous doutez fondamentalement qu'il y a quelques personnages sans doute qui vont prendre cette décision. Est-ce qu'ils doivent donc prendre le parti des humains ou est-ce qu'ils doivent rester dans leur fonction de colons et finalement suivre les ordres de la civilisation qui les envoie et prendre ce qu'ils ont besoin et pas s'intéresser au reste. Et cette discussion, elle est incessante dans le film. Et fondamentalement, je pense que, pour le coup, à travers toutes les mutations qu'on a vues tout à l'heure, à travers toutes les transformations des Eternals, y compris dans les comics dont j'ai parlé, hein, qui ont pris la relève de Kirby après, donc ça date pas du cinéma, à travers toutes ces modifications-là, à travers même l'apport du cinéma et les nouveaux choix qui ont été faits, et ben dans cette contradiction du déterminisme, dans le fait que des personnages vont devoir lutter contre ce pour quoi ils ont été créés, ce pour quoi ils ont été pensés, et ben on retrouve l'âme de Kirby. Et ça, fondamentalement, c'est vraiment le truc qui, à mon sens, fait que ce film-là, sans être le reflet extérieur des dessins de Kirby, et pour le coup, je pense que, par exemple, le Thor Ragnarok, avec beaucoup plus de design incorporé de Kirby, tenait mieux la route là-dessus. Eh ben, ce film-là, par contre, c'est sans doute le premier film à refléter vraiment la pensée de Kirby, non pas la lettre, mais bien l'esprit, dans l'univers cinématique de Marvel. Je vous ai dit tout à l'heure que pour moi c'était un film qui aux deux tiers était vraiment très intéressant, forcément avec un tiers moins palpitant, et ce tiers là il arrive fondamentalement une fois que la question de savoir si on doit suivre son rôle ou si on doit y échapper, elle a commencé à être répondue par différents personnages, et on arrive donc finalement à une sorte de grosse bataille globale qui occupe le dernier acte du film. Je sais pas si c'est techniquement vraiment un tiers en longueur. C'est moins intéressant aussi parce que la narration de Chloé Zhao, là-dessus, elle retombe sur des valeurs connues dans l'univers cinématique Marvel, et on a même carrément des filtres qu'on connaissait sur le début du film, des choses assez intimistes au niveau visuel, qui disparaissent pour vraiment nous donner du laser et des effets spéciaux. Au point d'ailleurs que la narration, quand on regarde même scénaristiquement, elle perd un peu des personnages de vue. Il y a un des Éternels qui disparaît un peu avant le combat final, et dont on ne nous reparle pas du tout pendant tout le combat, malgré le fait qu'il y a toute une histoire comme quoi les personnages doivent être connectés entre eux, et qu'on ne retrouve que vraiment dans les derniers instants du film, sans vraiment des explications un petit peu pour savoir ce qui s'est passé, comment il a reconnecté un petit peu avec les personnages. Donc cette partie-là, elle est moins intéressante, même si je pense que pour les fans de comics qui veulent voir des connexions et trouver un petit peu des choses à rapporter, à rapprocher de la bande dessinée, bah finalement, ce qui se passe à l'issue de ce combat final nous amène une scène qui est très proche de choses qu'on a pu voir à nouveau dans les Avengers de Jason Aaron et de Ed McGuinness. Et enfin, une fois passée cette bataille finale, il y a une sorte de redistribution des cartes qui fait que d'un seul coup, tout s'accélère. Et autant dans l'essentiel du film, on a quelque chose qui prend son temps pour nous raconter une histoire qui s'étend sur des millénaires, autant là, d'un seul coup, on est vraiment dans le Deus Ex Machina, avec plein de petites boîtes qui s'ouvrent pour nous parler de choses qui vont se régler dans différents films. Enfin, je pense qu'elles vont se régler dans différents films. Et à ce sujet-là, il est clair que les dernières minutes du film changent complètement les règles pour les personnages, qui restent. Et c'est un petit peu la même chose pour une des scènes post-génériques, puisqu'il y a deux scènes post-génériques. Donc surtout, si vous en voyez une, ne décampez pas à la première occasion en vous disant « c'est bon, on a vu le truc ». Mais restez bien pour attendre la deuxième, même si elle ne va pas vous révéler grand chose pour le coup. Il y a une de ces deux scènes qui clairement change encore un petit peu le scope de ce qu'on pouvait attendre sur les Eternals. C'est une connexion qui est connue des lecteurs de comics, mais clairement qui vient rajouter encore des choses, et là pour le coup reconnecter les Eternals à ce qu'on connaît de l'univers Marvel en général au cinéma. Globalement, on peut dire d'ailleurs que ce film-là, en dehors de quelques lignes de dialogue qui sont contenues dans les bandes annonces d'ailleurs pour la plupart, et puis de cette connexion qui se fait vers la fin, il pourrait exister carrément dans un univers à part, pour ainsi dire. C'est-à-dire qu'on pourrait virer quelques scènes de dialogue et ne pas faire le rapprochement avec ce qui se passe, ce qui a pu se passer chez les Avengers ou les choses comme ça. Les personnages qui arrivent dans une des scènes de post-générique, eux, ils reconnectent carrément les Eternals à une autre partie de l'univers Marvel, et clairement, ça relance les jetons dans une autre direction. Ce qui fait qu'on a un film qui a pris son temps pendant des heures pour nous raconter une histoire assez massive, et qui d'un seul coup s'accélère en l'espace de quelques minutes, et là je parle vraiment des scènes qui précèdent le générique, c'est-à-dire que avant même ces histoires de post-générique dont on a l'habitude, qui donc s'accélère et se met à nous raconter, nous balancer beaucoup de signaux d'un seul coup de manière assez fébrile, et du coup on perd un petit peu ce truc-là. Il y a eu un moment dans le film où on est tellement sorti du truc que je me demandais comment ils allaient pouvoir instaurer une suite à ce film-là, comment ils allaient pouvoir soit instaurer un Eternals numéro 2, soit redistribuer les Eternals dans différents films à venir. Il y a même un moment où on se dit qu'il y a les trois quarts des personnages qui vont y passer dans la bataille finale. C'est pas exactement le cas, pas totalement le cas, et clairement, après on revient sur quelque chose qui est beaucoup plus attendu et beaucoup plus proche. C'est-à-dire que les personnages survivants à la fin du film, et en particulier avec l'injection de nouveaux protagonistes, on pourrait pratiquement les imaginer dans un Gardien de la Galaxie 3 ou 4. Donc c'est la vraie question des Eternals, c'est-à-dire que ce qui les rend intéressants dans ce premier film, c'est le fait que ce sont des personnages qui doivent se poser des questions sur leur propre rôle, sur leur propre existence, et évoluer, non pas au sens de Alien Theory, mais évoluer dans leur nature, se dépasser eux-mêmes, et qu'une fois qu'on a résolu ça, fondamentalement, on a perdu cette incertitude, et on va pas forcément pouvoir alimenter ça, je pense, sur d'autres films. On va sans doute s'efforcer de le faire, mais ça sera un petit peu compliqué, en tout cas. Voilà. Il n'y a pas non plus le personnage qu'on pourrait mettre un petit peu comme doudou aux spectateurs les plus jeunes. C'est-à-dire que même dans Captain Marvel, vous aviez au moins le chat de l'espace, vous aviez des fourrures, vous aviez des choses comme ça. Vous avez Groot chez les Gardiens de la Galaxie, j'en ai parlé, enfin, il y a plein de choses. Il y a toujours un petit peu le personnage un peu garant d'un public plus jeune, même dans des, parfois, Avengers, vous avez au moins peut-être un personnage comme Hulk qui peut jouer ce rôle-là. Alors, je parle pas du Hulk de Endgame, bien sûr. Là, on a quand même le contre-coup de cet avantage le reste du film, c'est-à-dire que comme les héros sont, pour la plupart, dans le Gravitas, fondamentalement, on imagine assez mal des gamins jouer après avec des peluches de Druig ou de Icaris. Et donc, ça va sans doute aussi jouer un petit peu sur l'affection qu'on peut porter au personnage. Dans le casting des Eternals, on a aussi quelque chose à la fois de naturel, et puis quelque chose qui est moins compréhensible. Dans le naturel ou dans les choses qui peuvent s'aménager assez facilement, en tout cas, on peut parler de Fastos. Alors Fastos a été déjà assez largement claironné. C'est dans le film un éternel qui a fondé une famille gay et qui a donc un fils. Fils qui, pas totalement par hasard, s'appelle Jack. Et on notera un petit peu le clin d'œil au créateur des personnages. Et fondamentalement, autant dans les comics, c'était pas entièrement ça, autant Fastos est un personnage assez peu développé dans la BD, et ça laisse beaucoup de place pour que cette histoire s'y rajoute sans le dénaturer. Il y a toute la place pour le faire, et donc ça pose pas du tout de problème. La chose peut-être qui m'a le plus surpris, c'est que dans les comics, Kingo Sunen, c'est une sorte de super samouraï, et donc c'est une sorte d'Eternals qui évoque un peu les dieux japonais. Et là, pour le coup, on a choisi une ethnie complètement différente, et on est plus dans le terrain de Bollywood. Donc c'est un choix un peu particulier, parce que pour le coup, Kingo Sunen, déjà dans les comics, lui représente une sorte de variété ethnique, et quelque part, les japonais ont été évacués du film. Si après avoir vu les Eternals au cinéma, vous vous demandez un petit peu comment prolonger la découverte, je vais en profiter déjà pour vous recaser au passage mon livre qui s'appelle Kirby Sphere, dans lequel il y a toute une partie d'abord stricto sensu sur les Eternals, puis d'autres chapitres qui parlent sur des séries assez sensibles, assez semblables, qui ont un peu contribué à la conception des Eternals en différentes étapes. Donc déjà, Kirby Sphere chez Corrette, c'est toujours disponible, c'est en vente libre, dans toutes les librairies qui font les bons choix. Et plus logiquement, bien sûr, vous allez vouloir lire le mythe à l'origine, et bien entendu, vous allez pouvoir vous tourner vers les Eternals de Jack Kirby qui sont ressortis chez Panini, donc la série d'origine. Alors vous allez avoir quelques surprises parce que Ajak ou Makari sont quand même assez différents dans cette version, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Vous avez quelques références à gérer, à lire ou à relire, comme le Earth-X, qui indépendamment des Eternals vous expliquera finalement ce que font les Célestes dans l'univers Marvel, et puis vous expliqueront un petit peu quel est le futur possible de l'univers Marvel. C'est toujours bon à prendre, d'autant que je suis pas sûr qu'un jour Earth-X n'apparaisse pas sous une forme ou sous une autre, sous un dessin animé ou dans un film dans l'univers cinématique Marvel. On a quelques autres parutions, comme la série des années 80, Eternal, c'est une maxi-série qui avait été écrite par Peter Gillis et qui avait été dessinée par Sal Buscema pour les premiers épisodes, puis reprise après au scénario par Walt Simonson et dessinée, je crois, par Paul Ryan. Alors bon, ça, pour le coup, c'est une sorte de bébé mal né. C'est une maxi-série qui a commencé avec des auteurs et qui a fini avec d'autres auteurs qui n'étaient donc pas ceux qui étaient là au début et qui n'ont pas pu apporter forcément la fin prévue. Ça, c'est évitable. Mais vous pouvez vous rapprocher, bien entendu, des Eternals de Neil Gaiman et John Romita Jr. Ça aussi, ça va se trouver assez facilement chez Panini. Vous pouvez aussi vous tourner vers la toute récente série Eternals scénarisée par Kieron Gillian, qui est un petit peu figée parce qu'on sent qu'elle a été conçue dans l'attente du film qui était sur le point de sortir. Et cette BD, je vous ai expliqué tout à l'heure, elle arrive finalement sur tout un lot de corrections rétroactives. Tout le monde a un peu corrigé les Eternals à son tour, et ça donne des personnages peut-être un peu éloignés de la fibre humaine de Kirby, un petit peu surhumain dans le sens Nietzsche, qui n'était pas forcément ce que Kirby avait dans l'idée. Et fondamentalement, je pense qu'on retrouve plus l'esprit de Jack Kirby dans le film qui sort cette semaine que dans la série de Kieron Gillian chez Panini en ce moment, ou donc chez Marvel Comics. Ça veut pas dire qu'elle est pas bien, elle est intéressante pour d'autres choses, mais c'est pas forcément la plus fidèle à l'esprit de base de Kirby. Ce sera finalement le mot de la fin, c'est-à-dire que je peux vous dire que le film Les Eternals, ben effectivement, c'est pas le meilleur film du monde qui soit paru un jour dans une salle de cinéma. C'est pas non plus le plus mauvais. Et avant que quelqu'un vienne pleurnicher qu'il s'agit, ah mon Dieu, de trouver un compromis et de dire que ce film est passable et que donc il faut aller le voir parce qu'il est passable, c'est pas le cas non plus. Il a plusieurs points d'intérêt. Simplement, il a aussi quelques failles. Et en définitive, je crois que ce film-là, malgré ses failles, il est sans doute plus fidèle à l'esprit de Jack Kirby que certains comic books qui sont parus ces dernières années estampillés Eternals et qui ont poussé le concept un peu loin et qui l'ont un peu refroidi. Donc ce sera un petit peu mon verdict final, c'est-à-dire que le film est intéressant, pas parfait mais intéressant, que quand vous le regarderez, gardez à l'esprit que c'est un film qui, mine de rien, parfois en creux, parfois sans trop le dire, parle beaucoup d'impérialisme et de colonisation, parfois même l'impérialisme des États-Unis, souvent d'ailleurs l'impérialisme des États-Unis, et que il y a beaucoup de choses intéressantes à apprendre avant que sur la fin de ce film-là, les choses rentrent un petit peu dans un ordre qu'on connaît, ce qui n'est pas le moment le plus intéressant, vous l'aurez compris. Avant de vous laisser, je vous rappelle que Aventure Fiction fonctionne grâce à un petit peu à votre soutien, comme je vous l'ai expliqué en début de podcast, c'est-à-dire que soutien par l'acte, vous pouvez diffuser le lien de ce podcast, vous pouvez le partager, le faire connaître sur les réseaux sociaux. Et puis vous pouvez aussi nous rejoindre sur une page Tipeee qui est prévue à cet effet. Ça aide aussi beaucoup. Ça permet un petit peu de rentabiliser le temps que je passe à l'écriture et à la conception de ces podcasts. Dans le prochain épisode, on va parler à nouveau d'un sujet qui est très orienté Marvel et peut-être même orienté un petit peu Marvel cinématique. Mais d'un autre côté, comme au tout début de Aventure Fiction, on avait parlé beaucoup, pendant en tout cas quelques chroniques, de points qui étaient plutôt associés avec l'univers DC Comics. Je pense que ça va un petit peu équilibrer sur toutes les chroniques. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt sur Aventure Fiction.